Herzlich willkommen zu Mein Element, dem Podcast vom Lützeburger Journal und zusammen erbisch beim FNR, dem Luxembourg National Research Fund.
Quand je parle avec les gens, j'ai dit là, je fais génie électrique. Généralement, comment une femme ou bien une fille, elle peut faire ce type des études. Et même ma mère, elle a du mal à me voir. Comme ingénieure, elle préfère là que je travaille dans une banque. Au prix Nobel, je peux vraiment participer ou non, tout dépend. Je peux vraiment dire, bon, là, j'ai autre chose à faire, je ne vais pas vraiment participer. Mais là, si mon étudiant, il arrive à faire quelque chose, c'est comme si ton fils, hein.
Mein Name ist Max und heute ist meine Witte Dina Sheehy. Und das wird nämlich das Problem wie ich, und zwar, dass seine Eltern nicht zu 100% können erklären, was dann sein Beruf ist. Und wenn sie das müssen erklären, dann geht das wahrscheinlich so klingen.
J'imagine, mon père et ou bien ma mère, ils vont répondre à cette question, ça va être un peu difficile, parce que mon père, jusqu'à aujourd'hui, il ne trouve pas la définition de mon métier. En général, s'il va dire, ma fille, elle est professeure en génie électrique, ils vont penser, là, c'est les câbles, c'est les mains sales et tout, directement, les gens. Donc lui, il essaye d'expliquer ça. Il dit, en général, donc, ma fille, elle est professeure en génie électrique, elle travaille sur des énergies, elle travaille sur l'intelligence artificielle, sur les capteurs. Donc, elle essaye de donner quelque chose que les gens, ils peuvent
des, un peu comprendre. Des passwords.
Oui, voilà. Mais même lui, il ne comprend pas trop, honnêtement.
Ok, also bis auf passwords, wissen wir da trotzdem nicht wirklich, was er möchte. Und dafür ist es vielleicht gut, wenn wir nur einmal die Inessing-Version hören. Wie hat dann sein Beruf erklärt?
Alors, je présente mon métier, je suis professeure et chercheuse, parce qu'en général, les gens, ils font pas le lien. Et j'aime bien être prof, mais aussi chercheuse. J'aime bien les deux. Et je dis là, mon background, c'est génie électrique, mais je travaille sur les capteurs intelligents. Je suis le lien entre l'informatique, l'intelligence, et aussi génie électrique, qui est quelque chose de fondamental.
Forscherin, Ingenieur, KI, Datenanalysen, ab und zu noch Rekurhallen. Die merkt, der Beruf vom Ines aus vielfältig. Ich kann mir vorstellen, dass der Kalender auch komplett gefüllt ist, überall Post-Titten drauf sind, ganz viel gekrozelt dran ist, weil irgendwie muss ich den Überblick bei all den Rendezvous halten. Und da frage ich mich, möchte dann alles nämlich viel Spaß? Oder gibt es da die eine oder andere Tasche, die halt nicht so gerne möchte?
Alors, mon métier, même si j'utilise l'intelligence artificielle, traitement des données et tout, mais le background, c'est génie électrique. C'est-à-dire, si je maîtrise pas génie électrique, je peux pas vraiment proposer des solutions. Parce que là, ça, c'est la valeur ajoutée. De maîtriser les deux en même temps, l'ingénierie, mais aussi l'analyse des données. Parce que je suis pas informaticienne. Je travaille sur des algorithmes qui sont plus ou moins abstraits. Mais non, je travaille aussi sur l'application. L'application, elle m'intéresse. Si je n'ai pas le background génie électrique, je peux rien faire avec ça. Alors, pour la partie génie électrique, j'aime beaucoup l'électronique. Je bricole, par exemple, le laboratoire, quand vous êtes en train de voir, il est en préparation. Donc, j'ai participé avec les techniciens pour la réparation, pour voir est-ce que c'est l'équipement, il est encore fiable ou non. Donc, je bricole, je bricole beaucoup. Et aussi, la partie programmation, j'adore. J'adore programmer, proposer. C'est pas utiliser des bibliothèques prédéfinies, des modèles prédéfinis, mais non. J'aime toucher avec mes étudiants, programmer avec eux. J'aime le faire parce que mon métier, ce n'est pas un métier là pour travailler. Je suis vraiment très patiente. J'aime beaucoup mon métier.
Ok.
Donc pour moi, et la partie électronique et la partie aussi data intelligence sont les deux parties sont intéressantes. Par contre, peut-être j'aime pas trop le côté administratif qui est toujours lié à notre métier. Ça vraiment, oui, j'essaye, je fais de mon mieux.
Wir sehen, Dinas bezeichnet sich als Bindeglied und da zischt direkt pure Disziplinen. Dafür kommen wir halt ab in der Oberfläche zu kratzen und wir gehen einfach mal an Eva seine Projekte gucken. Und du geht es um Sensoren. Sensoren beginnen mir zum Beispiel, wenn wir an den Supermarkt gehen, auf ihre Neues geht dir einfach vom selben ab. Oder wenn wir auf einer öffentlichen Toilette sind, als Hände wollen waschen und sobald wir fangen auf dem Kuhnhuhn, läuft Wasser. Sensoren bemerken uns, und ohne dass wir irgendetwas müssen machen oder berühren, geschieht dann etwas. Das ist aber so, dass Dina sich nicht mit normalen Sensoren beschäftigt, sondern mit Smart Sensors, also intelligente Sensoren. Aber wo ist der Unterschied zwischen normalen Sensoren en smart sensoren?
C'est toujours la question. Donc moi, quand je définis qu'est-ce que ça veut dire smart, en général, smart sensor ou bien smart algorithm, là, par exemple, un capteur conventionnel, c'est un capteur physique. Donc finalement, c'est basé sur des réactions chimiques ou bien c'est physique. Ce sont des lois physiques. Un capteur intelligent, donc là, on peut trouver aussi un capteur conventionnel avec tout ce qui est physique, mais là, on rajoute une couche d'intelligence. Et c'est quoi l'intelligence? L'intelligence, si le système, quel que soit le capteur, bien n'importe, il est capable à changer de comportement si on change l'entrée. Mmh. Voilà, donc ça, c'est l'intelligence. Par exemple, l'être humain, il sait très bien comment il marche. Il trouve un obstacle, quel que soit une table ou bien une chaise. Donc, il peut reconnaître ça. Mm-hmm. D'accord? Donc, le capteur intelligent aussi, il s'adapte avec les nouvelles données. Il est capable de faire des nouvelles lois propres à lui si on change les données.
OK.
Donc, si on change l'entrée, l'excitation.
OK. Donc, il ne sait pas seulement qu'il y a quelque chose là-bas, par exemple une table, mais il sait l'interpréter, c'est une table et pas une chaise.
Oui, même si, interpréter, c'est un peu... Alors, pour moi, l'intelligence, ce n'est pas nouveau, parce que tout le monde, maintenant, il parle de l'intelligence artificielle. Ils font aussi la confusion entre réseau neural artificiel, intelligence artificielle. Il y a beaucoup de termes. Hein. Mais finalement, quelque chose d'intelligent, pour moi, un algorithme, ou bien un système qui n'est pas intelligent, donc là, il a des règles prédéfinies, manuelles, prédéfinies. Et un système ou bien un capteur ou bien un algorithme intelligent, donc il est capable de redéfinir ses règles. Mmh. Même si on change l'excitation, même si on change l'environnement, les entrées, les sorties, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ma définition par rapport à ça.
Et weiter, Tobi, vom Inas aus Kunst. Dinas Mold an sich sogar so professionell, dass die Bilder schon international ausgestellt auf Verkauf gehen. Seine Passion zur Kunst, also sich in spannender Kontrast, weil bei Ingenieuren oder Leuten, die mit Algorithmen schaffen, geht ihr sich immer davon aus, dass die just am Binärcode denken können. Und vor, wenn sie darüber nachdenken, seid ihr aktuell auch immer mehr Kunstprojekte an Zusammenarbeit mit AI. Das müsst ihr am Anfang in Hannah Montana Thema sein für Dinas, weil für hat das quasi the best of both worlds, oder?
Oui, j'aime bien. Je vois aussi beaucoup de projets qui sont très intéressants et très importants pour l'art. Et là, je suis aussi en train de développer un projet avec un collègue qui fait la musique pour proposer des solutions avancées pour l'enseignement. Je ne donne pas trop de détails parce que c'est encore en développement. Oui. Mais par contre, j'aime toujours le côté manuel. Hein. J'aime. Par exemple, la peinture, je sais qu'il y a des solutions là pour remplacer un peu l'être humain. Mais moi, j'aime toucher de la matière, j'aime faire les choses avec mes mains et tout. J'aime faire ça.
Et comment est-ce que tu développes une idée pour ton art?
Une idée en relation avec mon métier?
Non, avec ton art, par exemple.
Avec mon art, alors, comme je viens de dire, j'aime tout ce qui est réaliste et j'aime les portraits, j'aime les gens aussi. C'est-à-dire, je vois si par exemple, je sais pas, mais je suis comme ça. C'est-à-dire, si je vois quelqu'un, je vois un côté, il y a des visages qui attirent, il y a des visages qui parlent beaucoup, qui s'expriment, même sans pourtant dire un mot. Là, j'aime beaucoup les portraits, honnêtement. Le regard, le côté là, caché des gens, parce qu'avec tout ce qui est physique, on peut pas vraiment comprendre les gens, hein, convenablement. Donc là, refléter le caractère des personnes sur leur visage avec la peinture. Et bien évidemment, je peux synchroniser ça avec les couleurs, avec le côté abstrait et tout. Donc tu trouves toujours quelque chose de très réaliste dans mes peintures avec beaucoup d'abstrait. Je peux te montrer si...
Oui.
Ouais, si vous êtes intéressé. Parce que là... Et je fais des tableaux, de grands tableaux.
OK.
Oui, de mètres sur 2 mètres et...
Donc, tu fais une photo, par exemple, d'une personne?
Pas une photo.
Donc, la personne doit s'asseoir?
En général, je mets le miroir, je vois un peu mes traits. Je fais ça pendant la nuit, quand je suis tranquille et seule. Donc, du coup, je ne trouve pas beaucoup d'inspiration. Et je dis, bon, bref, je peux faire avec. Attends, ça c'est favori. Ça c'est par exemple un tableau de mètre sur deux mètres.
Cool.
Ouais. Donc tu vois la femme avec son regard.
Elle ça me rappelle un peu de Klimt.
Oui, il y a plusieurs couleurs et c'est vraiment
les.
Vraiment, ça, c'est oriental parce que la femme, elle porte quelque chose d'oriental, mais regarde les yeux qui parlent beaucoup de choses. Elle cherche la liberté, elle cherche à s'exprimer. Donc, il y a toujours le côté abstrait. Hein. Mm-hmm. Ça, c'est ma signature.
Tu vends aussi
J'ai fait des expositions, oui. Oui. Et c'était international quand même. L'autre tableau, il est à Londres, l'autre en Allemagne, depuis la Tunisie. Donc oui, oui. Mais maintenant, ça fait 3 ans que j'ai rien fait depuis mon arrivée au Luxembourg. Ouais.
Dinas war übrigens bald die einzige Frau Sänger Ingenieursklasse. Interessanterweise hat Eurostat 2021 eine Statistik publiziert, die besieht, dass den Frauenanteil an wissenschaftlichen und Ingenieursberufen an der EU bei 41,1% liegt. Hallo, Frau Nierste Bausen. Bei wie viel Prozent an der Statistik lungt eigentlich Lützeburg? A. 45%, B. 28%, C. 42% oder D. 55,1%. Kommen wir loggen an. Richtig. Bei 28%. Und damit sind wir auch an dieser Statistik Schlusslicht. Du fragst dich, wie kriegen die Zahlen noch über verbessert und wie war das eigentlich damals für Dines, so als bald die einzige Frau in einer Klasse?
Moi, je vois que le côté positif, honnêtement. Hein. Je sais pas, peut-être c'est ma nature un peu, mais je vois le côté positif. Pour mes études, surtout les premières années, j'étais plutôt concentrée sur les cours. C'est-à-dire là, je reste dans la première rangée et je vois pas autre chose, honnêtement. J'étais trop passionnée par les cours. Expérience était positive. Bon, mais généralement, quand je parle avec les gens et j'ai dit là je fais génie électrique, généralement comment une femme ou bien une fille elle peut faire ce type des études et même ma mère elle a du mal à me voir hein. Comme ingénieure elle préfère là que je travaille dans une banque ou bien oui et aussi à l'université au département d'ingénierie je suis la seule femme et honnêtement je trouve aucun problème, peut-être c'est un avantage, je suis un peu gâtée quand même. Oui, peut-être c'est un avantage, je vois pas que c'est un inconvénient, au contraire, parce que là, du moment où on va parler de la science, donc là, il y a que la partie scientifique qui va jouer son rôle, à mon avis, c'est ça. Alors si tu n'es pas vraiment bien calé scientifiquement, là, ça pose un problème et là, non, ça va pas être très très agréable.
Ok. Et pourquoi est-ce que tu penses qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui veulent étudier comme génie électrique, par exemple ?
Les préjugés. Okay. Les préjugés, parce qu'ils pensent, comme je viens de le dire, c'est les mains sales, c'est les câbles, toujours dans les chantiers. Mais non, on peut travailler juste avec les ordinateurs, on peut faire beaucoup de choses avec génie électrique, hein, beaucoup de choses. Et là, j'essaye de faire des présentations dans les lycées pour leur montrer c'est quoi génie électrique. C'est un peu loin de ça parce que même si on est des femmes, on veut être, on veut avoir un boulot qui n'est pas trop, je sais pas.
Monotone.
Oui, monotone. À mon avis, génie électrique, c'est quelque chose qui peut aussi aller avec les femmes, mais il y a que des préjugés hein, finalement.
Et comment est-ce qu'on peut combattre ces préjugés ?
Les profs, ils ont un rôle très important. Ils doivent parler avec les lycéens, les filles et les garçons, les deux en même temps, parce que voilà, il faut expliquer ça, il faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire génie électrique, parce qu'ils n'ont aucune idée. Aussi, je vois à l'université, ils font beaucoup d'efforts par rapport à ça. Ils essayent quand même de faire expliquer qu'est-ce que ça veut dire génie électrique, mécanique, ainsi de suite. Donc là, il faut faire la communication aussi avec les réseaux sociaux. Maintenant, il faut aller directement au lycée, ainsi de suite.
Oui, à l'université, c'était en Tunisie ou?
Oui, je suis tunisienne. J'ai étudié en Tunisie. J'ai aussi enseigné en Tunisie. Donc, c'était ma formation plutôt en Tunisie, mais j'ai toujours collaboré avec presque tout le monde. C'était pas évident. de la Tunisie, parce que c'est très différent de Luxembourg. Et moi, je suis très contente parce que je suis là dans un milieu qui pousse et qui aide pour avoir de nouvelles idées pour la recherche. Parce que la Tunisie, donc, elle passe par des crises économiques, politiques. Donc, c'est pas évident de trouver les fonds pour faire de la recherche. Donc, on a galéré vraiment pour faire de la recherche. C'était pas évident du tout. Mais quand même, je n'ai jamais lâché la recherche. Hein. Jamais.
Okay.
Oui.
Okay.
C'était difficile, mais faisable.
Pendant ton temps en Tunisie, qu'est-ce que c'était une expérience qui était très, très importante pour ta vie professionnelle après?
Alors, la première expérience que je peux jamais l'oublier, c'est mon expérience à Gafsa, parce que je vais expliquer, en Tunisie, malheureusement, il y a une très, très grande différence entre le nord et le sud. Les villes du sud, donc, n'ont pas beaucoup ni le transport, ni beaucoup de choses. Bon, là, ça va être un problème plutôt politique, hein, donc là, mais là, malheureusement, ce sont des pays qui ont besoin de support. Donc là, lorsque j'ai commencé à ma profession comme professeur de l'État, donc là on a le choix, donc on peut mettre le choix pour choisir quelle ville on peut enseigner, parce qu'en Tunisie on a plusieurs universités, c'est pas une seule université. Donc là j'ai mis la ville de Gafsa avant la ville de Sfax. Et Sfax, c'est une grande ville au sud, mais c'est une grande ville. Donc en général, les Sfaxiens sont des gens riches, sont des investisseurs, sont des industriels, mais Gafsa, c'est une ville quand même qui a quelques problèmes. Et mon père, il m'a dit, mais pourquoi tu as mis Gafsa avant Sfax? J'ai dit, mais non, je veux vraiment travailler à Gafsa, je veux aider mon pays. Il m'a dit, mais non, tu vas trouver des problèmes, le transport, les gens, c'est pas comme ça, tu n'as aucune idée, tu vas galérer. J'ai dit, non, je vais le faire. Oui, et j'ai fait ça. Donc j'ai enseigné à Gafsa et c'était vraiment les trois meilleures années de ma vie. Croyez-moi.
Ok.
Avec beaucoup de difficultés, c'était pas évident parce que là pour aller de Tunis ville vers Gafsa, c'est pas évident. Même le transport, parce que là vous, les Européens, vous pouvez pas imaginer le type de transport et de voiture qu'on peut prendre pour aller. Et là, même pour faire une pause pour faire nos besoins naturels, on n'arrive pas à trouver. C'était quand même trop différent, hein. Mais quand même, c'était très génial. On a travaillé avec les étudiants. Les étudiants, au début, ils étaient démoralisés parce qu'ils ont dit, là, madame, finalement, on va prendre les diplômes, on va pas trouver un travail. On a plusieurs problèmes. Ils parlent pas très bien le français. Le français, c'est demandé en Tunisie. Ils ont des problèmes en mathématiques, des problèmes en je sais pas quoi. Donc, vraiment beaucoup de problèmes. Mais les étudiants, ils étaient intelligents, parce que si je discute avec eux, j'explique quelque chose, donc ils sont là, donc ils sont vraiment intelligents. Et là, j'ai décidé avec ma collègue et ma copine, Lilia Sidhom, de proposer un master sur les systèmes embarqués. Pourquoi on a choisi les systèmes embarqués? Parce que ça demande beaucoup de pratique. Et là, on peut vraiment aider les étudiants pour apprendre la pratique des systèmes embarqués, des microcontrôleurs et tout. Et vraiment, le résultat était excellent. Excellent. Donc, ils ont non seulement maîtrisé les systèmes embarqués, mais aussi les soft skills, parce que c'est très important. Même si on ne maîtrise pas, par exemple, le français, mais on doit avoir quand même une certaine confiance en soi pour pouvoir convaincre les gens par rapport à nos compétences professionnelles. Et là, on a touché un problème par rapport à ça. Donc, ils avaient aussi des problèmes par rapport aux soft skills. Donc, on a essayé. On n'avait pas les moyens. En Tunisie, il faut faire attention. On n'a pas les moyens. Hein. Donc là, on a invité les gens et les gens, ils ont accepté pour faire ça bénévolement. Et finalement, on a réussi à faire un master excellent, à faire des formations en soft skills excellent. J'ai aussi profité de ça. Hein. J'ai aussi profité de ça. Et jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait combien? Ça fait 10 ans en arrière, peut-être, oui, quelque chose comme ça, oui. Et jusqu'à maintenant, je reçois des messages sur LinkedIn. Ils me disent, madame, merci beaucoup. Madame, maintenant, on a un poste extraordinaire. C'est grâce à ce master et à ce programme. Jusqu'à maintenant, vraiment, à chaque fois, je parle de ça, j'ai la chair de poule. Et j'adore ces gens parce que... Les gens là-bas, c'est trop différent. Ils sont très simples. C'est vrai, ils n'ont pas les moyens. C'est vrai, il y a beaucoup de problèmes, mais ils sont toujours heureux. ils ont toujours le sourire. Ils sont, comment dirais-je, c'est-à-dire là, si tu montres quelque chose, ils vont te montrer directement, t'inviter à manger. Ils sont très gentils, les gens là-bas. C'était les meilleures 3 années, mais après, je dois vraiment quitter parce que là, j'ai 2 enfants et quand même, je ne peux pas rester faire la navette toutes les semaines et tout. C'était un peu difficile.
Ok. Donc, c'est aussi une question de l'encadrement et de la confiance aux gens.
L'encadrement et encore l'encadrement.
Okay.
Oui, parce que là, si tu as quelque chose, si tu aimes ces étudiants-là, si tu connais leurs problèmes, ils vont directement assimiler. Hein. C'est-à-dire là, ils vont être comme une éponge. Tu donnes et là, ils vont vraiment recevoir tout. Mais là, il faut vraiment les comprendre. Il faut les comprendre et avoir la volonté pour les aider.
Dinas kommt aus Tunesien, ein Land, das 1956 unabhängig gekauft, warm Klima hat und ja, so kann ich das Handwerk auch selber googeln. Ich fand es viel interessant, von Ines selber aus erster Hand zu hören, wie hat dann aufgewachsen ist an einem Land, an dem ich bis jetzt noch gar nicht war.
Alors, je suis tunisienne, je suis grandi à Tunis. Je viens d'une famille normale. Ma mère était administrative, plutôt elle a travaillé au ministère des femmes. En Tunisie, on a un ministère de la femme. Mon père, il a travaillé au ministère garde nationale, ministère de l'Intérieur. Et c'était 2 personnes normales, mais cultivées. Donc leur intérêt, ils se concentrent sur l'éducation des enfants. Donc j'ai une sœur, elle est animatrice télé en Tunisie. Et j'ai 2 frères, un qui est ingénieur, il est en France, et l'autre, il est dans l'immobilier en Tunisie. Donc, on est une famille normale, une famille standard tunisienne. Et les Tunisiens en général, parce que la Tunisie n'a pas beaucoup de ressources, donc là, les gens, ils se concentrent plutôt sur l'éducation. Hein, sur l'éducation, le niveau académique, c'était quelque chose de très, très important pour les familles tunisiennes. Aussi, donc, peut-être la famille, ce qui est important, c'est pas uniquement qu'est-ce qu'ils font mes parents ou bien le milieu, c'est aussi important, ce qui est très important aussi, c'est l'amour dans la famille. Donc là, je considère que je suis née dans une famille qui est pleine d'amour.
Ça, c'est très beau.
Oui.
Pour aider ces gens qui ne savent rien de la Tunisie, le plus petit pont qu'on peut construire, c'est toujours si on parle des choses qu'on peut manger. Donc, qu'est-ce que c'est d'un plat typiquement tunisien?
Ah, le couscous, hein, le couscous tunisien. Alors, la Tunisie, la cuisine tunisienne, c'est une cuisine très, très riche parce que finalement, c'est un mélange aussi hein, de différentes cuisines. Elle est piquante. Donc, si tu vas manger en Tunisie, il faut faire attention. Et à propos de la Tunisie, donc l'année dernière, on a organisé un voyage d'études pour les étudiants. Mmh. Ils ont visité la Tunisie avec quelques collègues ici au Luxembourg. On a visité des industries tunisiennes. Mmh. Et parce que à chaque fois je pars, je dis les Tunisiens, ils ont un très bon niveau en ingénierie, on a des industries qui sont très très bien aussi, donc ils peuvent pas imaginer. Mais une fois là-bas, ils ont vu là-bas le niveau, parce que l'ingénieur tunisien, il est obligé de tout faire, faire le travail de technicien, faire le travail d'ingénieur, faire le travail de chercheur. Ils font des machines très complexes de A à Z, croyez-moi. De A à Z. Donc les collègues, même ici, ils étaient vraiment étonnés par rapport au niveau aussi culturel, comment ils parlent, comment ils présentent les choses ici aussi. Donc j'étais vraiment très très fière pour ce voyage-là. Oui. Et vraiment, ça c'est très important parce que ça va vraiment rapprocher les demandes. Mm-hmm. Parce que à mon avis, donc l'Afrique et l'Europe, ils doivent rester ensemble, c'est proche. Mm-hmm. Et ce qu'on a en Afrique, on n'a pas en Europe et vice versa. Donc si vraiment on a le bon contact avec les bonnes personnes, on fait les bons projets, on peut faire beaucoup de choses qui sont super.
Est-ce qu'il y a des préjugés qu'on a, par exemple, académiquement en Europe par rapport aux universités en Afrique ou en Tunisie, par exemple? Parce que je peux m'imaginer qu'il y a des gens qui pensent, bah, oui, c'est une éducation, mais c'est en Afrique. Est-ce qu'il y a ces préjugés-là ou est-ce que tu n'as pas confronté quelque chose comme ça?
Alors, ça dépend. Ça, c'est une très bonne question. Ça dépend. C'est-à-dire, si on va partir pour la France, par exemple, ou bien la Belgique, Ils savent très bien le niveau académique des Tunisiens parce que je peux pas vraiment prononcer, mais il y a un grand pourcentage des ingénieurs, des médecins, des pilotes, des biologistes qui sont tunisiens, des chefs aussi. Hein. Aussi, c'est pas uniquement en Europe, mais aussi aux États-Unis, au Canada, au Moyen-Orient. Ils sont partout, honnêtement. Heureusement et malheureusement pour la Tunisie. Hein. Mais par contre, par exemple, ici, au Luxembourg, donc beaucoup de monde, ils ne savent même pas elle est où, la Tunisie. Hein. Ils ne savent même pas. Parce que africain, pour eux, donc, c'est un autre...
un autre monde.
Oui, un autre monde. Oui, oui, un autre monde. Donc ici, au Luxembourg, au début, ils ne savent pas. Mais après, s'ils prennent un peu de temps, donc, ils peuvent vraiment voir la différence. Hein, parce que là, honnêtement, en Tunisie, on produit de très bons ingénieurs, de très bons médecins qui ne restent pas en Tunisie. Ça, c'est vraiment un problème pour mon pays, mais c'est la vérité. Mmh. Donc, et comme je viens d'expliquer, la Tunisie, elle n'est pas un pays riche. Donc, on n'a pas de ressources. Et les seules ressources, c'était le tourisme, c'était l'agriculture un peu, c'était aussi... Donc les gens, ils se concentrent vraiment sur le niveau académique et l'éducation.
Für den Podcast hat mich Dinas übrigens als einen neuen, zukünftigen Labor invitiert. Zum Moment von der Aufnahme stehen du allerdings noch nicht wirklich viel dran, bis auf zwei Computer, zwei Stille an den wirklich lieblich zusammengestellten Platten mit Getränks und ein bisschen Obst. Sonst war der Raum eitel. Wie Dina so bei mir angefangen hat, zu erzählen, was hat alles der Bande Wölles hört, dann waren gefüllt mit Fantasie. Und ich merke, dass Dina es wirklich dafür brennt, für seine Studentinnen und Studenten um etwas Neues beizubringen. Aber wie motiviert hat eigentlich die jungen Leute, für immer 100% zu gehen?
Oui, c'était ça le problème quand je suis venue ici. Il n'y avait pas beaucoup de profs pour génie électrique, donc du coup, les étudiants, ils commencent. Par exemple, ils ont commencé 6 en premier semestre, en deuxième semestre, 0 étudiants. Et là, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas trouvé la motivation. La motivation, en général, c'est un tout. Hein. Et là, j'ai essayé d'appeler les étudiants un par un pour comprendre leur problème. Bon, il y a deux filles. Les deux filles, elles ont dit, c'est pas notre truc parce que c'était le choix de nos parents. On n'aime pas et on ne veut pas le refaire. Il y a d'autres qui ont dit, là, on a trouvé le professeur, il est plus attirant pour la partie mécanique. Donc, on a choisi une autre spécialité. Et donc, du coup, j'ai décidé avec mes collègues de rajouter un peu, comment dirais-je, de suspense, des activités pour cette spécialité. Et ça marche très bien. C'est-à-dire là, nous avons premier semestre et deuxième semestre, des workshops. Premier semestre, c'est basé c'est plutôt l'intelligence artificielle. Donc là, les étudiants, principalement, donc ils vont avoir un cours, qu'est-ce que ça veut dire l'IA, les différentes approches et tout. Ils ont deux projets à faire, ils ont fait parfaitement les choses. Cette année, j'ai 15 étudiants, ils sont super bien. Oui, et ils ont fait aussi deux projets qui c'était pas aussi évident de programmer avec Python et de proposer des extensions par rapport à ces programmes et tout, ils ont réussi. Et aussi, dans ce workshop, on invite des gens, des professionnels du métier, et là, pour parler de différentes applications de l'intelligence artificielle. L'énergie, la biomedical applications, on a fait beaucoup de choses. Et ils ont beaucoup aimé et ils ont excellé, mes étudiants. Génie électrique, c'est la meilleure spécialité. Et en deuxième semestre, c'était aussi des workshops industriels. Donc là, on invite des gens, ils vont parler techniquement de ce qu'ils peuvent offrir pour les gens, des industriels, des entreprises là, de développement. Et aussi, on fait beaucoup de visites. Hein, et les visites chez les industriels. Et là, les étudiants aussi, ils peuvent voir directement qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas, une industrie de automobile, par exemple. Parce que là, ils doivent, à mon avis, avoir une idée réelle des industriels et des applications réelles par rapport au génie électrique. Ils ont aussi aimé et tout. Et finalement, chacun, il a préparé une présentation, il a choisi un sujet. Et vraiment, waouh, c'était waouh. Nous avons vraiment cette année une qualité d'étudiants en génie électrique extraordinaire. J'enseigne aussi l'électronique et vraiment cette année, les étudiants, ils sont exceptionnels. Hein. Même pour les travaux pratiques, parce que, comme je viens de dire, le laboratoire, il est en préparation. Donc, on n'a pas vraiment tout le matériel. Ils se débrouillent. Ils peuvent, par exemple, prendre une fonction de cette machine, l'autre de l'autre machine et tout. Vraiment, ils sont excellents.
Qu'est-ce que c'est ton but académique ?
Alors, pour l'enseignement, c'est clair. Si tu vois des étudiants qui ont réussi leur vie professionnelle, c'est clair. Donc là, ils ont réussi et ça, c'est une fierté pour moi. Et là aussi, pour la partie recherche, bien évidemment, si je réussis mes recherches, et si j'arrive aussi à appliquer ma théorie dans des problèmes pratiques, ça aussi, c'est quelque chose. Hein, je serais vraiment très contente. Aussi pour les chercheurs, donc là, on a toujours un amour avec les papiers, les publications, les livres. C'est toujours comme ça. C'est tout à fait normal parce que c'est éternel. Hein, les livres et les papiers, ça ne meurt jamais. Donc, on a toujours le nom des chercheurs sur leur papier. Donc, je suis pas trop, je rêve pas trop de ça parce que là, je pense que le résultat, c'est vraiment la récompense. La récompense. C'est si par exemple mes étudiants, ils vont prendre des postes super, ils vont être des ingénieurs excellents, aussi les PhD, ils vont continuer à faire la recherche, ils vont aimer ce métier, c'est quelque chose. Si un étudiant, il aime ce métier, c'est-à-dire là, tu arrives vraiment à atteindre ton but.
Si tu pourrais choisir que tu gagnes un prix Nobel, mais aucun de tes étudiants, ou tu ne gagneras jamais un prix Nobel, mais deux de tes étudiants vont gagner un prix Nobel. Qu'est-ce que c'était ton choix?
Automatiquement, la deuxième. Ça, c'est mon produit, les étudiants. C'est, on dirait, ton enfant.
Okay.
On dirait ton enfant, parce qu'au prix Nobel, je peux vraiment participer ou non, tout dépend. Je peux vraiment dire, bon, là, j'ai autre chose à faire, je ne vais pas vraiment participer. Mais là, si mon étudiant, il arrive à faire quelque chose, c'est comme si ton fils, hein. C'est le même sentiment. C'est le même sentiment. Et finalement, parfois, je dois vraiment me maîtriser parce que ce sont pas mes fils finalement. Mais là, j'ai vraiment ce sentiment. Ils doivent vraiment faire quelque chose. Oui. Directement la deuxième réponse.
Das war das Fund des Episodes von Mein Element, dem Podcast vom Lützburger Journal und zusammen habe ich mit dem FNR, dem Luxemburg Research Fund. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr diesen Podcast teilt mit eurer Freunden und Kollegen, wenn ihr Feedback habt oder wenn ihr einfach 5 Sterne an eurer Podcast-App gebt. Und ich gebe so hin, wir hören uns die nächste Woche. Bis dahin, ciao.